Nous tenons à vous avertir que cet épisode est rempli de divulgâcheurs. Donc, si vous n'avez pas vu le film et que vous ne voulez pas vous le faire spoiler, allez voir le film et revenez écouter le podcast par la suite.
Salutations et bienvenue à Entre trois films, émission spéciale Top Gun Maverick. Et cette fois-ci, c'est un épisode avec divulgâcheurs plein de spoilers. Et je suis très content d'avoir été voir ce film-là ce soir en compagnie de Yogi et Foxman. Salut messieurs, vous êtes présents en studio?
Oui, oui. Présent.
Phew, je pensais que vous n'étiez pas là.
Ah oui, je suis là, mais je suis pas là.
On écoutait ton intro, passionnément.
Donc, comme on disait, dans ceux qui ont écouté la version sans spoiler, on est allé voir ça au Cinéplex IMAX des Galeries de la Capitale. Et
c'est
ils
ça.
Sont pas très, très sacoche.
Ils sont plus à la page, comme on dit.
Non, ils ont des gros problèmes de gestion dans la région de Québec pour Cinéplex. Je sais pas de quoi ça a l'air à Montréal.
J'ai entendu parler d'ailleurs au Canada, puis c'est pareil partout.
C'est quoi que John Campia dit à chaque fois qu'on parle de Cinéplex à son émission?
Il disait qu'il voulait 20 ans, c'était son rêve de travailler pour Cinéplex Odéon. Puis là, il veut plus mettre le petit orteil dans un Cinéplex Odéon.
Et on demande au CLAP de rouvrir une autre salle, s'il vous plaît.
Avec un IMAX.
Oui, avec un IMAX, un CLAP IMAX, ça serait vraiment trop cool.
Hey, moi, j'aurais toujours voulu voir un Woody Allen en IMAX.
Woody Allen à IMAX. Pourquoi pas?
Non.
Donc, on est allé voir Top Gun Maverick et c'est de ça qu'on va parler. On va commencer peut-être par vous dire de quoi il en retourne. C'est quoi l'histoire, grosso modo, de ce film-là?
Ah, c'est moi qu'il faut que je raconte l'histoire?
Ben, si tu veux, moi...
Je vais raconter l'histoire. C'est pas moi avec mon anglais qui va pouvoir te le dire.
Il était une fois.
On va pouvoir t'aider, là, s'il y a des petits affaires.
OK. Le film commence identique au film de 86, avec les mêmes title cards, les mêmes écritures au début du film. Et le générique est possiblement semblable à celui de 86, c'est-à-dire des décollages sur un porte-avions avec le thème de Top Gun qui suit par Danger Zone de Kenny Loggins.
Of course.
Ensuite de ça, on retrouve Pete Mitchell qui est dans le désert de Mojave, où ce qui est rendu pilote d'essai pour la Navy. Ou qui est sur un programme spécial pour un avion pour atteindre le Mach 10, qui est 10 fois la vitesse du son.
Ce qui est très rapide.
Okay, très rapide. Puis ils sont sur le point de se faire couper les vivres par un amiral qui veut remplacer les pilotes par des drones. Fait que, in character, vraiment, parce que c'est vraiment comme on connaît Maverick du premier film, il fait un gros finger, puis il dit... Quand est-ce qu'il arrive? Dans 5 minutes, on décolle tout de suite, puis on le fait.
Avant qu'il arrive.
Ouais. Puis on va le faire, puis il va être obligé de...
De continuer à nous financer.
Fait que il fait cela, il réussit son coup, mais c'est Maverick, fait qu'il décide de pousser l'engin encore un petit peu plus que
Mach 10.
Ouais, fait que l'avion explose, et il se retrouve de in the middle of nowhere, comme on dit.
C'est pas mal ça.
Puis il se fait perdre le contrat. Puis il se fait envoyer
à l'école de Top Gun.
Parce qu'il y a un protecteur au-dessus de... Un grand amiral qui protège son vieil ami.
Oui.
On apprend, c'est...
C'est Iceman, qui était joué à l'origine par Val Kilmer, qui est toujours joué par...
Il joue encore par Val Kilmer, oui.
Mais
là, c'est ça. Spoiler alerte, il sera plus joué par Spoiler.
Et c'est peut-être la dernière performance qu'on va avoir à vie de Val Kilmer dans un film, à part des documentaires peut-être, mais... Puis sa scène.
Oh. Une scène extraordinaire.
C'est ça. Pete Mitchell est engagé pour entraîner les derniers gagnants de la Coupe Top Gun du premier film pour une mission spéciale qui est dans un pays X qu'il ne mentionne jamais.
Non.
Où on se rend compte qu'ils sont en train de préparer une bombe nucléaire.
Grosso modo, c'est ça. Ouais.
Ouais. En tout cas, le programme nucléaire est là, puis il faut que.
Il faut mettre fin à ce programme-là par la façon la plus américaine possible.
On envoie nos gros canons. Fait qu'il entraîne les personnes.
Pour une mission, impossible.
Suicide.
Oui, suicide.
Mission impossible. Le jeu de mots est bon d'ailleurs. Il réussit à entraîner le monde, mais il arrive de quoi qui. En tout cas, il devient le. Il n'était pas supposé piloter la mission, puis il finit par.
La piloter,
finalement, parce que le monde voulait avoir Tom Cruise en pleine action. Ils font la mission et tout se règle par les applaudissements.
Nourris du public et les accolades sur le porte-avions.
Oui.
Un petit peu comme le premier film.
Identique.
Comme, en fait, un petit
80%
peu
des scènes sont repiquées du premier,
ouais.
Mais dans le bon sens du terme.
Puis c'est ce qu'on voulait voir.
Oui.
C'est un hommage.
Oui.
Dans le bon sens du terme.
C'est du fanservice, mais comme le fanservice doit être fait.
Oui, de la façon la plus amicale possible, pas se la faire pitcher dans... Comme
la plus respectueuse.
Il y avait un réalisateur que j'ai entendu parler, qui avait dit que faire une suite, c'est de faire le même film sans que ça paraisse pas. Les meilleures suites et le même film sans que ça paraisse pas.
Ouais, non, c'est parce que...
Tu viens de faire une double négation.
C'est ça. C'est fait par exprès.
Faut que ça paraisse.
Non, il faut pas que ça paraisse. Tu fais le même film, mais il faut pas que ça paraisse que tu fais le même film.
Ben oui, mais si tu fais une double négation, ça veut dire que ça fait.
C'est que la façon que tu le dis, c'est sans que ça paraisse pas.
Ouais, mais c'est ça. Il faut pas que ça paraisse.
Non, mais.
On sent le sac de la double négation. Non, le monde a compris.
C'est pas grave. On va continuer. On est en train de dire, pour faire une suite, il faut que ça se fasse.
Tu fais le même film, il faut pas que l'auditoire s'en rende compte que tu fasses le même film.
C'est exactement ça. Ça, c'est bien dit.
Oui.
Parfait. Puis c'est ce qu'ils ont fait.
Oui.
C'est bien réussi dans Top Gun.
C'était l'ABC du sequel parfait.
Moi, j'ai bien aimé ça. Tantôt, t'avais dit le film Popcorn.
Le film Popcorn hollywoodien parfait.
Parfait.
Comme Hollywood ne fait plus depuis des années.
Oui.
Exact.
C'est les films qu'on applaudit, qu'on rit, qu'on se donne des coups sur l'épaule, puis on fait « Yes, c'est ça qu'on voulait voir! » Un peu comme à l'époque que Roland Emmerich avait fait Independence Day ou des films de ce genre-là. Là.
Et on a eu en masse d'explosions pour pouvoir comparer Top Gun à un film comme Independence Day facilement. Spoiler, la personne la plus importante, je dirais, dans le core du film, dans la façon que la trame... la trame dramatique du film, je dirais, c'est la... Moi, personnellement, j'ai pensé que c'était la relation entre le fils de Goose qui est...
Oui, et très proche, la relation entre Val Kilmer et Tom Cruise aussi.
Oui, c'est vrai. Mais bon, plus on la voit moins parce que on voit moins Val Kilmer. On sent sa présence.
Toujours.
Parce que c'est lui qui a l'air de sauver la tête forte de...
Ça ferait longtemps qu'il aurait été chercher son 4%, disons, Pete Mitchell, Iceman n'aurait pas été là.
Dans l'armée, ça serait peut-être même retrouvé en dedans. Là,
oh, ouais,
la loi martiale.
Oh,
les MP l'auraient ramassé une
Parce que les règlements, ils ne connaissent pas ça.
Exact. Mais grâce à un seul contact qui reste encore fidèle à Mitchell, ben il s'en sort. Il s'en sortait tout le temps.
Ouais.
Ben, il finit par s'en sortir encore dans ce film-là.
Oui.
Quelle surprise! On s'attendait pas à ce que. Moi, je m'attendais. J'ai pendant une fraction de seconde, j'ai pensé qu'elle allait nous l'éliminer. Je suis obligé de dire ça là, dans le film.
Il a cru. Moi aussi, j'ai cru.
Moi, je le savais, c'était trop beau pour.
Non, mais je veux dire, pas quand ils nous ont fait faire croire qu'il était décédé. Ça, j'ai pas cru pantoute. Mais j'ai longtemps, pendant le film, je me disais, ça va arriver. Il y a quelque chose qui. Puis en plus, il va se sacrifier pour sauver Rooster.
Ouais, mais j'y aurais cru s'il nous aurait pas fait à croire la même chose dans le milieu du film.
Ouais.
Pendant une séquence de choses, on a un gars qui perd contrôle de son appareil, puis ils font « Ah, il se réveille à la dernière minute, puis il réussit à remonter. » Puis la séquence d'après, c'est comme on essaie de vous faire un jump, puis la séquence d'après, c'est là que la vraie catastrophe arrive quand les oiseaux foncent sur l'avion, il y a une floquée d'oiseaux qui passe sur l'avion. J'ai aussi là que j'ai compris qu'il n'arriverait rien au personnage du film, qu'il n'y aura pas de drame au niveau des pilotes.
Non, surtout que tout de suite après, t'as une officier de l'armée qui vient dire ben, ils sont à l'hôpital puis ils vont s'en sortir.
Ouais.
C'est comme ça. Ce n'était que des égratignures.
C'est une chose qui manque au film.
Blessure superficielle.
Le damage, il aurait fallu. Moi, personnellement, en tant que réalisateur, j'en aurais mis un ou deux
de
qui
plus,
qui aurait dû passer à trépas
dans Oh fuck.
Passer à trépas. Moi, être réalisateur, j'en aurais mis un ou deux des personnages que j'aurais fait tuer, je les aurais fait passer à trépas. Mais
question de mettre du drame.
Du drame dans le film, mais...
Mais il y en a déjà pas mal,
oui,
de drame.
Mais aussitôt que j'ai vu la scène que je viens de vous dire, je savais que le film était un film safe.
Ouais, pour tout le monde.
Ouais. Ça paraît quand t'as vu plusieurs films, tu le sais, quand le film est safe.
Ouais. Ben, c'est parce qu'il y avait des minorités de toute la... Ils pouvaient pas permettre... on va le dire, celle qui subit l'accident, c'est la Latino.
Oui. Qui est d'ailleurs belle comme un cœur, là.
Super belle. Mais s'il aurait fallu qu'il tue la Latino, il y aurait eu du monde avec des pancartes.
Mais tu tues Hangman.
C'est ça. Ouais, mais...
Qui est vraiment... Son nom finit par Man, hein? Ouais. C'est vraiment... C'est exactement le même personnage. Aussi cocky, aussi baveux. Ouais. Puis il joue avec son cure-dent, pareil comme Iceman faisait dans le film original.
Puis il save the day.
Oui.
Tandis qu'Iceman, lui, il est premier.
Oui.
Fini premier du concours, ben, Top Gun, ben, du concours de...
Puis c'est le contraire dans le film, c'est Maverick qui vient sauver Iceman dans le film original, tandis que là, c'est Hangman qui vient sauver Maverick.
Ben, il sauve les deux, il sauve Rooster en même temps, parce que Rooster, il est comme perdu, lui, en arrière dans le cockpit.
Oui, parce qu'il faut dire qu'il y a une scène avec l'avion original du premier film.
Avec le F-14.
Ouais, ben... Il fallait qu'il y ait un F-14 à quelque part. Puis ça, je le savais.
Qui est un appareil super beau encore. C'est magnifique.
C'est considéré comme un des meilleurs avions de chasse de l'histoire de l'aviation de chasse. C'est un avion qui a été commissionné pendant la guerre du Vietnam. Puis ça, je pense que ça fait 15 ans qu'elle n'est plus en fonction. Là. C'est l'avion qui a duré le plus longtemps au top de la pyramide.
Presque 50 ans, là.
C'est pour ça que je disais, OK, c'est pour ça que j'y croyais, moi. Encore, s'il y avait 15 ans à peine que ça volait encore, ça peut encore voler.
Ouais, ouais. Mais bon, les pièces commencent à être rares. Oh, oui. C'est plus à ce niveau-là que j'avais fait comme, mes autres, ils arrivent, ils partent ça comme si rien n'était, pas de pièces qui marchent pas, rien.
Ouais, mais les communications fonctionnaient pas. Le radar fonctionnait pas au début.
Oui, mais c'est parce que c'est l'autre qui savait pas comment l'allumer, c'est pas parce que...
Ça aurait été son père.
Tout aurait fonctionné tout de suite.
Mais il y avait un trou dedans. Il y a un trou en plein milieu du cockpit du Rio.
Oui, mais en fait, c'était comme un rond noir, mais c'est juste parce que...
Il manquait de quoi?
Ben oui, le radar, il marchait pas.
Ouais, mais
quand il l'a ouvert, ça s'est rempli. Ouais. Fait que c'était pas un trou, c'était vraiment juste...
C'est la manière que c'était filmé, on avait l'impression que...
L'impression qu'il manquait une pièce.
Non, c'était le radar qui fonctionnait pas.
Il manquait une pièce. Et finalement, ben, un F-14, on peut se rendre compte que ça peut détruire des avions de cinquième génération.
Ah, c'est pas l'avion qui compte, c'est le pilote. Ils disent combien de fois dans le film? C'est pas l'avion qui compte!
J'ai pas assez de doigts pour tout les calculer le nombre de fois qu'ils disent.
À force de nous le répéter, on a fini par le croire.
C'était pour qu'on croie cette scène-là, justement.
Exact.
C'est ça le suspension of disbelief qu'on appelle. C'est quelque chose que le réalisateur t'implante des affaires, puis après ça, il peut te faire n'importe quoi. Puis tu vas l'accepter. Ouais, quand t'es un bon réalisateur, je parle. Là. Pas tous les réalisateurs.
C'est un bon réalisateur qu'on a eu là, ce soir.
C'est lui qui a fait, entre autres, qui a fait Oblivion avec Tom Cruise aussi, qui avait fait la suite de Tron Legacy. C'est lui aussi, Joseph Kosinski. Puis il s'est beaucoup inspiré de Tony Scott, que d'ailleurs le film est dédié à Tony Scott à la fin. Parce que s'il ne serait pas mort, Tony Scott aurait réalisé ce film-là. On s'entend que c'était un film de Tony Scott.
Tout carrément.
Puis même les plans de caméra faisaient Tony Scott. Le montage du film fait Tony Scott.
Non, c'est un hommage complet à ce réalisateur-là.
Et c'est réussi. Qu'est-ce que c'est rare aujourd'hui d'avoir des hommages de même réussis.
Oui.
Truc que j'ai trouvé un petit peu triste, c'est de tuer Meg Ryan hors écran.
Ouais, mais tu voulais pas l'avoir dans le film.
Okay. Non, elle a tellement changé, je suis d'accord.
Non, mais tu sais, c'était mieux de... C'était la façon facile de le faire, puis expliquer ça en une ligne de dialogue.
Ah, une ligne de dialogue, c'est ça. C'est comme plate un peu, mais bon, on est rendu.
Puis j'aimais ça que le froid entre Rooster et Maverick soit pas juste à cause de tuer mon père, blablabla, ça va pas vraiment juste... Oui, c'était comme une série sur le Sunday, mais c'était plus sur un autre aspect qui est le fait que Maverick avait promis au personnage de Meg Ryan que son fils volerait jamais. Fait qu'il avait retardé son entrée à l'académie, il avait utilisé ses contacts.
Pour pas qu'il devienne pilote.
Pour pas qu'il devienne pilote.
Puis l'autre, il en voulait.
Ouais.
Parce que finalement, il a réussi quand même à rentrer par lui-même, mais 4 ans
plus tard que prévu.
Ce qui met comme un petit peu sa carrière en retard sur la plupart des autres. Mais bon, il devient quand même un pilote assez extraordinaire. Là.
Ouais, disons que la personne qui l'a élevé, parce qu'on voit qu'il l'avait élevé puis qu'il n'était pas en froid avant cet événement-là, là, sûrement. On sent que c'est Maverick qui l'a élevé parce qu'il y a des photos de lui au début du film. Quand on voit ce genre de photos, on voit des photos de Rooster à toutes les âges, tu sais.
Ouais.
Qui avait veillé sur Rooster depuis sa tendre enfance. Là.
Exact. Il l'a suivi, puis il était présent. Qu'est-ce... Parce que même qu'il dit, dans, il y a une scène, il dit ouais. Je voulais remplacer son, être un père de remplacement. Là,
ouais. Puis j'ai une question pour vous autres.
Oui.
D'après vous, le père de la petite fille, c'est-tu Maverick?
Selon moi, juste avec le jeu du regard qu'il y a entre les deux, juste la façon aussi que. La mère réagit à certaines informations, que certains dialogues. Je crois pertinemment que la fille, c'est...
Parce qu'il y aurait eu...
Il y a un moment donné, il demande où est ton père.
Oui, mais ça, tu sais, ils ont peut-être une entente, Maverick, puis la mère a peut-être une entente, dire qu'elle avait un chum, parce que Penny Benjamin est la fille d'un amiral où ce que Maverick a déjà quasiment passé en cours martial, si on... Si on comprend l'histoire du premier film, à cause qu'il avait couché avec la fille de l'amiral.
La fille de l'amiral.
Tu sais, puis on dirait qu'ils ont eu, après la relation qu'il y a eu avec Charlie, ils auraient eu une relation on and off avec cette femme-là, parce que tu vois que ça fait pas si longtemps qu'il l'a vue, mais.
Petite question. Charlie, elle est où?
Aucune idée. On n'entend pas son nom une fois dans le film.
Ça aussi, c'est une. C'est quelque chose qui manquait un peu.
Puis il faut mentionner que John Hamm fait une de ses meilleures performances que j'ai jamais vues de John Hamm.
Oui, il est vraiment bon. Il était au-dessus de son jeu habituel.
Et Tom Cruise est à son meilleur depuis
A Few Good Men,
des Hommes d'honneur. C'est une des rares fois dans ma vie avec Rain Man, Born of the 4th of July et A Few Good Men qui est capable de sortir une performance d'émotion. Ce qui a vraiment de la misère, Tom Cruise.
Ça, c'est la scène avec Iceman, Val Kilmer.
Ah oui, on voit qu'il a les yeux rouges tellement qu'il y a de la peine, puis ben, tu peux pas faker ça.
La scène où ce qui est, il voit Rooster dans le bar, puis lui est dehors parce qu'il vient de se faire sacrer dehors du
ça,
bar.
Ça, on voit de l'émotion. Qu'est-ce qu'on voit jamais de Tom Cruise d'habitude?
J'ai fait comme, oh, attends.
Là, yak, pour une fois, là.
On a quelqu'un d'autre là, que notre Tom Cruise habituel.
Parce qu'il faut dire que Tom Cruise joue Tom Cruise d'habitude.
Ouais.
Puis c'est pas mauvais parce que Tom Cruise. Quand on va voir un film de Tom Cruise, on va voir les cascades, on va voir c'est quoi la folie qu'il va faire ce coup-ci, parce qu'il nous sort tout le temps des affaires. Ben,
on en oublie que c'est un grand acteur, le gars.
Quand il veut.
C'est ça.
C'est pas tout le temps.
Non, il fait du cash grabbing souvent.
Ben, tu sais, comme l'émission est possible, il joue Tom Cruise, sauf qu'il fait des cascades. On va le voir les films pour qu'est-ce qu'il va faire en fait folie plus que pour l'histoire. Ou
Alors que là, on sait très bien que oui, il pilote les avions.
Ouais, je pense qu'il y a deux scènes dans tout le film qu'il n'a pas piloté.
Puis sérieux, là, être capable de faire ça en plus de jouer.
À son âge.
Il est rendu à 60, je crois.
Ouais, en tout cas, il ne fait pas ça, c'est sûr et certain. Il y a une scène où il joue au football, au touch football.
Il est plus musclé que les gars.
C'est incroyable. Il est en bedaine. Moi, à 60 ans, je suis capable de me mettre en bedaine devant une caméra ou devant même du monde. Je risque d'être fier de moi, mais je ne suis pas sûr que je vais être capable. Là.
Non, non, il a ton tonneau au lieu de ton six-pack.
Ouais, non, mais il est coté comme un gars de 20 ans. Là,
exact. Non, c'est comme je disais dans l'autre épisode. Moi, j'ai changé au bout, mais lui, il a juste changé sa moto.
D'ailleurs, le monde qui vont le voir au cinéma cette semaine, le film, il va voir la bande-annonce de Mission Impossible le prochain. Puis il fait une cascade à la fin de la bande-annonce.
C'est... wow!
Non, mais Tom Cruise, un jour, on va le voir mourir à l'écran.
Malheureusement, c'est
ce qui risque d'arriver. On va voir une nouvelle, genre, qui s'est planté la gueule lors d'une cascade. Ben, c'est pendant le dernier Mission Impossible qu'il avait sauté d'un building à building puis qu'il s'était cassé la jambe. On voyait au ralenti, ça avait passé à tous les postes de télévision, même aux nouvelles, la jambe pliée en deux, là.
Juste en parler, j'en ai mal.
Fait qu'un jour, il va y arriver de quoi, mais ça fait partie de Tom Cruise. On voit que c'est un acteur qui est dédié à son métier.
Non, puis il aime ça.
Oui.
Il a vraiment du plaisir à faire des folies. Ça paraît dans son regard quand on le voit piloter, parce qu'on voit la caméra à même le cockpit pendant qu'il... Ça, c'était une scène extraordinaire. Là, tu le vois comme s'il y avait une GoPro.
Ben, c'est... Il y a 6 caméras IMAX par cockpit.
OK.
6. Ils ont réussi à miniaturiser des caméras IMAX puis en ont mis 6 par cockpit pour avoir le plus d'angle possible.
Parce qu'il n'a pas l'air de forcer pendant qu'il vole. Il a vraiment l'air d'être au-dessus de son affaire.
Puis cette semaine, il a fait de la pub pour le film. Comme tout, quand on sort un film, on fait des junkets, on fait des talk shows. Puis il a invité un animateur de talk show à embarquer dans un avion avec lui. Puis on voit que c'est lui qui pilote. Puis... Ouais.
Je vais essayer de le mettre pour que nos auditeurs le voient cette semaine.
C'est de toute beauté.
Oh oui.
Oui, il y a des affaires arrangées dans le documentaire, dans le reportage, mais c'est normal. Ils ont fait un peu d'humour avec ça. Mais quand ils pilotent, ils pilotent pour de vrai.
Puis je dirais que l'animateur n'a pas toujours l'air heureux.
Tu serais-tu heureux, toi, quand tu te fais dire « On a un avion militaire, on va aller en ligne droite. » Il va en ligne droite, mais il vire à l'envers en même temps. C'est ça.
Je pense qu'un manège à Disney va être plus agréable que ça.
Ah, il devrait y avoir un manège dans un parc Universal ou un parc Disney de
Top Gun?
De Top Gun ou une Mission Impossible ou quelque chose pour montrer la folie de Tom Cruise.
S'il y a des exécutifs de ces deux parcs d'attractions-là qui nous écoutent... C'est des bonnes idées.
Ouais.
On veut une cote-part. On a-tu parlé de Val Kilmer comme que son personnage de Iceman qui malheureusement...
Il est encore capable d'acter pareil, hein? Même si, sa maladie, là.
Même s'il dit deux lignes de dialogue.
Regardez un peu plus. Quand il se met à parler...
J'ai été surpris qu'il parle autant que ça, même.
Oui, parce que même juste le fait de le voir jouer puis de pointer l'écran parce que les premières lignes de dialogue qu'il y a... Ils sont écrits sur un ordinateur, on voit le texte sur l'écran. Puis juste quand il en écrit une qui dit que tu devrais arrêter. Et qu'il dit « Ouais, mais qu'est-ce que je fais? » Puis il leur pointe encore pour dire « Regarde. » Puis tu voyais vraiment dans le visage, tu voyais vraiment dans son jeu que il était écœuré de le voir l'autre faire ses niaiseries. Uh-huh, ouais.
Mais c'est ça un acteur qui a du talent. Sans parler, il était capable de transmettre l'émotion.
Ouais, mm-hmm. Il a réussi. Puis malgré son visage aussi qui est comme... tout à fait.
Ben, il n'est plus là. Il y a eu un cancer assez dégénératif.
Ouais. Mais il réussit par ses yeux puis par son talent à transmettre les émotions qu'il a à transmettre. C'est vraiment surprenant.
Puis qu'il se lève debout puis qu'il se met à parler.
Ouais.
C'est un cadeau qu'il a fait aux fans de Top Gun.
Ouais. Ben, c'est un au revoir qu'il a fait à tous ses fans. Parce qu'il ne veut pas, Kilmer a quand même une carrière.
Il a été le saint, il a été Batman.
Il a fait
Tom Tombstone.
Si on tasse Batman, là, il a une très belle carrière.
Non, mais son Batman était bon. Son Batman, son interprétation, je parle pas du film, je parle de son interprétation de Batman était phénoménale.
Ouais.
Le mauvais Batman, c'est George Clooney.
Ouais,
mais Val Kilmer sortait son épingle du jeu. Il avait amené quelque chose, une noirceur que Michael Keaton n'avait pas amené à l'époque. Il avait réussi à faire de quoi avec le rôle qui était différent.
Mm-hmm.
Ça, j'ai rien à dire sur l'acting à Val Kilmer dans Batman.
C'est ce qui tourne autour, le problème.
Mais Val Kilmer est un acteur, regarde. Juste que dans la même année, il avait joué le même rôle que Dennis Quaid dans deux films différents. Qui était le personnage de Doc Holliday, un joué par Val Kilmer dans Tombstone, puis l'autre dans Wyatt Earp par Dennis Quaid. Puis il réussit à faire « Fuck you, Dennis Quaid,
ouais.
Je suis meilleur que toi. »
Ouais, c'est ça. Moi, c'est que j'ai...
Qu'est-ce que... Puis dans un film qui était beaucoup moins bon.
J'ai souvent dit que j'aurais pris ce Doc Holliday-là dans l'autre film.
Exactement, ça aurait été
parfait. Ben, on doit dire en même temps au revoir au personnage parce que naturellement
Iceman décède
durant le film. On a le personnage de Meg Ryan qui est décédé. Je sais pas trop, parce qu'on parle pas d'autres personnages.
Non, on n'entend pas parler de Charlie, on n'entend pas parler de qu'est-ce qui est arrivé à Viper ou
aux autres pilotes du premier film.
Ou à Merlin. Puis d'ailleurs, le personnage de John Hamm. Si ça aurait été un des pilotes du premier film, le film aurait été encore meilleur.
Ouais.
Tu sais, genre que Val Kilmer a tout mis ses chums, tu sais.
Il a protégé sa gang.
Ouais, c'est ça. Ça aurait emmené quelque chose. C'est lui, tu sais.
Mm.
Puis il aurait pu garder John Hamm pareil. Je veux dire, les acteurs, ça change aussi. Là, puis,
Juste donner le nom d'un personnage qui était existant déjà. Ouais. Que le monde ne se rappellerait peut-être pas nécessairement non plus de la face. Parce qu'on
Mais que le monde qui ont lu le roman de l'original
Okay.
Moi, j'ai lu le roman.
T'as lu le roman?
Ben, la nouvelisation basée sur le scénario. Puis c'est là qu'on savait beaucoup, comme les noms, de le nom de d'Iceman, on n'entend quasiment pas parler dans le film. Le nom Bradshaw, je pense qu'il n'est même pas dit dans le film que Goose s'appelle Bradshaw dans le film original. Dans ce film, dans le roman, c'était écrit. Ils ont pris des notes.
C'était pas dit, mais on le voyait sur une plaque.
Ouais, ouais, on le voyait sur l'avion, mais c'était pas... Dans un dialogue, jamais qu'on entendait parler.
Jamais.
Puis là, tu sais, ils ont pris tout... Tu sais, juste le personnage de Jennifer Connelly, qui est un personnage du lore, je sais pas comment
de
dire
l'univers.
Ça. De l'univers Top Gun, que le monde, les vrais fans de Top Gun savent c'est qui Penny Benjamin. Tu peux écouter le film sans le savoir, mais le monde qui... Trip Top Gun, puisque j'en connais des vrais fans de Top Gun.
Regarde juste comme Star Wars. Comme on a vu quelqu'un arriver en salle de cinéma habillé en pilote.
Oh oui, tu sais.
Oui, on avait un vrai fan.
Puis quand il est passé devant nous autres, à l'entrée du cinéma, j'ai dit, toi, tu vas pas voir Love Story. Hein? Il est parti arriver.
on a fait le tour, je pense.
Ouais,
il y a juste la musique qu'on n'a pas parlé, mais c'est du Hans Zimmer.
Ouais, mais c'est du Hans Zimmer qui n'est pas intrusif comme son Hans Zimmer habituel.
Non, ça,
il
c'est
est plus
sûr.
Discret. Là.
Il est très discret, puis il va dans le moule Walter Mayer du premier film sans, en étant moins bon un petit peu, mais il va quand même dans le moule. Puis c'est drôle parce que Walter Mayer a été crédité pour les thèmes, puis Lady Gaga pour sa musique. Ils ont été crédités dans le score au début du film. J'ai fait, pourquoi ils sont vus? Puis ça paraissait que c'était une trame sonore d'Hans Zimmer.
Ouais.
Excusez.
Parce qu'il manquait de. Comme dans le film original, on entend deux, peut-être trois fois Danger's Zone.
Oui.
Là, on l'entendait juste une fois.
Bon, mais c'était correct, là.
C'était correct.
Ouais.
Il y avait le coup de gang que tu
disais. Ça, je l'aurais mis plus souvent. Parce que ça fait partie de Top Gun. Dans le premier film, à chaque fois qu'il arrive de quoi, t'entends. Gong.
Mm-hmm.
Tu sais, là, on l'entend quoi deux fois dans le film? Deux à trois fois seulement?
Je pense que je l'ai trouvé trois fois.
Mais dans le film original, c'est beaucoup plus présent.
Fait qu'on va remercier Hans Zimmer pour une fois de ne pas avoir été Hans Zimmer.
Oui. Mm-hmm. Il a essayé de calquer Walter Mayer.
C'est ça.
Mais
puis,
il faut dire qu'on est des bébites, hein, parce que 90% de la planète aime Hans Zimmer.
Je crois que 80% suivent ce qu'ils font dire de faire. T'sais.
Non, mais c'est supposé...
Faut que tu l'aimes. OK, je vais l'aimer.
Non, mais c'est vrai pareil. À chaque fois que je dis à quelqu'un que je suis anti-Hans Zimmer, il me regarde pourquoi c'est le meilleur.
C'est peut-être le plus efficace, mais c'est peut-être pas le meilleur.
Non. Michael Giacchino, 100 fois meilleur que Hans Zimmer. Danny Elfman, 100 fois meilleur que Hans Zimmer.
On peut en nommer plusieurs qui sont là en ce
moment. Carter Burwell, 100 fois meilleur que Hans Zimmer. Clint Mansell.
Même on entend des thèmes, des compositeurs dans des séries télé qui sont meilleurs qu'Hans Zimmer.
Oh oui. Mais à chaque fois qu'il y a un gros film,
Hans Zimmer.
Puis il fait tous les gros films.
Ouais.
C'est ridicule, là. Il a fait James Bond, il fait les Missions Impossibles. Il a fait Dune. Il a fait Dune. Tous les gros films, c'est lui qui les fait.
On n'est pas chanceux, on est pogné avec.
Ouais. Puis on va être encore pogné avec pour beaucoup, beaucoup de temps.
C'est donc jamais.
Ah oui.
Non, mais moi, je ferais une affaire. Regarde. Il y a un réalisateur. C'est un Allemand, Zimmer. Il y a un réalisateur allemand qui a déjà dit si j'étais en pétition, j'arrête de faire des films.
Uwe Boll?
Ouais.
Hey, il y en a sorti un l'année passée, mais ça, c'est une autre histoire.
Ouais, mais c'est un menteur.
Des paroles d'alcoolique.
Non, il avait dit aussi à un moment donné, je suis boxeur, puis s'il y a quelqu'un qui réussit à me docker, j'arrête de faire des films. Il y a plein de monde qui était allé se battre contre lui.
Ouais, c'est là le docker.
Je pense qu'il avait aussi demandé si vous aimez pas mon film, au lieu de l'écrire, essayer de me battre sur le ring.
Oh, oui.
On va envoyer Justin Trudeau.
Non, ben, Mike Tyson est devenu critique depuis ce temps-là.
Il est critique politique depuis que Trudeau s'est battu.
Ouais, mais au moins Trudeau, c'est un prof de théâtre. Il devrait peut-être savoir de quoi il parle.
En tout cas, ça paraît pas qu'il, quand il fait ses discours. Mais ça, c'est une autre histoire. Là. On va parler de politique là, plus que.
Oh, on est rendu qu'on parle de n'importe quoi. Puis, et non pas de Maverick. Top Gun. Maverick.
En tout cas, pour moi, c'est un 8 sur 10.
Moi aussi, c'est un 8 sur 10.
Moi, les gars, je vais rester avec mon 7.5. Pas parce que je l'ai pas aimé. Pas parce que, au contraire.
On a 0.5 de différence.
Si je l'avais pas aimé, ça serait pas mal plus bas que ça. Je l'ai vraiment aimé. C'est juste que j'ai la possibilité de mettre un 0.5.
C'est le film popcorn idéal.
C'est un bon film où mettre. Ben, un film estival.
Oui.
C'est parfait. Blockbuster estival, c'est à quoi qu'on s'attend. C'est exactement le genre de film auquel on s'attend à voir lorsque l'été arrive et que finalement on a une soirée de pluie pour
aller. Comme aujourd'hui.
Comme aujourd'hui. Plutôt que profiter du soleil. Bien que le soleil dans ce temps-ci, on va l'attendre encore peut-être une couple de semaines. Bon, en espérant que vous avez apprécié cet épisode et que vous serez de retour pour nos épisodes à partir de dimanche, nos épisodes normal. Vous pouvez nous suivre sur Balado Québec, Spotify, iTunes, Google Balado, Facebook et YouTube. N'oubliez pas de laisser un j'aime sur nos publications et les commentaires et de vous abonner à nos sites. On vous en remercie d'avance.
Pour nos auditeurs, j'ai un spoiler.
Oui.
Vas-y. Si Obi-Wan n'est pas bon, c'est mon coup de cœur de la semaine.
C'est bon. C'était donc entre trois films.
J'ai bien dit si Obi-Wan n'est pas bon.
Si Obi-Wan n'est pas bon, il va rester. Ton coup de cœur, ça va être Top Gun.
Oui. Okay. Mais si Obi-Wan est bon, oublie ça.
Donc, c'était entre trois films et je suis toujours DJ Patoff en compagnie de Yogi et Foxman. Et on vous dit
à la prochaine.
Bon.